Parlons des radios amateurs. En un seul mot, hein, comme le suggère le correcteur orthographique. Et en anglais, radio ham, avec un H entre radio et ham. Ben oui, comme le jambon. Dans une précédente émission, nous avions reçu Gaël Musquet, qui vous avait invité, vous, auditeur, à prendre votre licence de radio amateur. Et comme il nous l'avait dit, il y a en proportion nettement plus de radio amateurs en Amérique du Nord qu'en Europe. Lui qui s'intéresse fortement aux moyens de résilience d'après désastre, cette technologie de communication est primitive, mais selon son propos, très intéressante. Pour vous donner une idée de la popularité des radioamateurs aux États-Unis, revoyez l'intro fabuleuse du film Contact, avec Judy Foster. Oui, oui, celui de 1997. Ou encore dites-vous que la plupart des informaticiens qui construisèrent l'ère 8 bits dans la Silicon Valley, ont une licence amateur, comme Steve Wozniak. La station internationale a d'ailleurs plusieurs indicatifs radioamateurs. Mais quelle est la différence entre les radioamateurs et la CB? Déjà, le cadre juridique, et je peux vous dire que l'activité est très cadrée. Avant de commencer, devenir radioamateur vous demandera d'obtenir une licence spécifique pour émettre sur des fréquences nettement plus variées, le certificat d'opérateur des services d'amateur. Et vous l'avez compris, puisqu'on en parle dans notre interview, ce certificat est attribué en France par la NFR. Ce certificat, abrégé ARCHREC, est gratuit maintenant, et délivré après un examen technique. Un examen qui est donc effectué et corrigé par les services de la NFR. Il a existé aussi une taxe radioamateur qui allait, elle aussi, été supprimée en 2019. Bon, concrètement, l'examen se déroule en deux épreuves écrites. Une épreuve de 15 minutes avec 20 questions en QCM sur la législation. Une épreuve de 30 minutes avec 20 questions en QCM sur la partie technologique. Reste au candidat à bachoter fortement. Heureusement, on trouve de nombreux cours en ligne, souvent d'accès gratuit, et des simulations d'examen. Voir des cours du soir dispensés par des clubs locaux de radioamateurs, bah, l'occasion de rencontrer ses futurs camarades de trafic radio. Je note d'ailleurs que, depuis 2012, le morse n'est plus au programme. Quel dommage, je me serais entraîné.
Non, c'est pas du morse, ça.
Ah, ta gueule. L'examen se passe en présentiel dans un des 6 centres régionaux de la NFR. Le centre le plus proche de Toulouse, ben il est à Tournefeuille. Juste en face d'un antenniste spécialiste en site émetteur. Eh ouais, ça ne s'invente pas. Non, non, sérieux, on aurait voulu faire un gag, vous nous auriez pas cru, mais vraiment. Si vous réussissez les deux épreuves, vous recevez un superbe diplôme sur papier en bois d'arbre qui vous attribuera officiellement un call sign. C'est un indicatif radio international qui n'appartiendra qu'à vous. Celui-ci fera entre 5 et 7 lettres et chiffres et il est nominatif. Ah oui, ça vous identifie. Mais au fait, où émettre? En France, la première attribution d'une bande de fréquence attribuée aux radioamateurs date de 1912. Actuellement, plusieurs bandes de fréquence leur sont réservées, qui vont de la très basse vers les 135 kHz, jusqu'au EHF, extrême haute fréquence, compté dans les 250 GHz. Très important, les transmissions doivent être émises en clair, pas de chiffrage. Après, peu importe si vous émettez vers les nuages, l'espace ou le sol, et le type de modulation, pas important. D'ailleurs, les radioamateurs se sont amusés comme des petits fous pendant plus d'un siècle, et cela a été source de nombreuses innovations. Allez, quelques-unes. Utiliser la conduction du sol lui-même plutôt que celle de l'atmosphère. Allez, chiche. Faire rebondir les ondes radio sur la Lune pour atteindre l'autre côté de la Terre. Roger, roger. Lancer un satellite à l'usage strictement réservé aux radioamateurs. Yippie! Faire revivre 20 ans après un satellite tombé en panne en le hackant à distance. Et allez hop, ça repart. Inventé sur la base du fax, oui, oui, la version papier, la télévision lente. Bah oui. Ah oui, Si vous vous demandez quelle relation existe entre les bricolos de la radio à grand-papa et les ordinateurs, je vais vous en donner une. Le préfixe IPv4, 44 points, et après vous choisissez le chiffre derrière. En 1986, Hank Magnuski a demandé un bloc IPv4 pour un usage destiné aux radioamateurs. À l'époque, on était très très loin de la pénurie d'IPv4 qui bloque nombre d'utilisateurs actuellement. Et comme je vous l'ai dit, à cette époque, nombre de bidouilleurs sacrés de la micro-informatique sont des radioamateurs. Donc le dossier fut vite expédié et les 16 millions d'adresses IPv4 potentielles préfixées en 44 points furent réservées au réseau informel AMNET, AMPRNET, donc un service sans but lucratif. En 1919, un quart de ces adresses ont été revendues à Amazon par l'MPR. Et l'organisme associatif, elle en a profité de ce pactole pour financer différents projets radioamateurs à travers le monde. Il leur reste environ 12 millions d'adresses IPv4 disponibles pour tout radioamateur. Ben oui. Dès que vous aurez votre licence, vous pouvez leur en demander une. Et la transition vers IPv6 est aussi toujours en discussion. L'activité et la population des radioamateurs a subi une longue décrue. D'où l'appel de Gaël Musquet pour tenter de vous convaincre de rejoindre les rangs. Selon les chiffres que nous avons, le pic du nombre de radioamateurs en France fut atteint en 1998 avec pratiquement 20 000 licenciés en France. Suivi d'une longue décrue, on ne comptait plus que 13 000 radioamateurs en France en 2018, 10 ans après. Les changements de statut dans la discipline cette année-là sont l'occasion pour de nouveaux venus de découvrir cette discipline technique. Par contre, on ne va pas vous cacher que les tenants du radioamateurisme à l'ancienne, de tradition, râlent parfois contre les nouveaux venus plus férus du trafic avec des postes en SDR, Software Defined Radio, via Internet. Heureusement, les radioamateurs expérimentés ne sont pas tous aussi bougons et conservateurs. La plupart sont au contraire ravis de tester de nouveaux procédés et de partager avec de nouveaux convertis à la discipline. Les radioamateurs entretiennent un héritage riche de la technologie et rappellent qu'il n'y a pas besoin d'un diplôme pour bidouiller et faire des découvertes importantes de la technologie. Et ces mêmes radioamateurs représentent aussi un réservoir de résilience quand les infrastructures, tant les télécoms, sont détruites.